Non, je... vas-y, ça t'a pris, tu as raison. D'accord.
On va y arriver. Encore une fois, hein, je m'habitue à ces prises de parole, table ronde. Alors, sur l'émission de la mémoire, comment on fonctionne au sein de mon lieu de Lima, elle est très importante, cette question. Est-ce que c'est l'héritage, l'histoire de nos parents? Et quand on va dans un quartier, dans une ville, on arrive avec l'histoire de la ville, du quartier et surtout des parents. Et ce qu'on fait quand on va sensibiliser et mobiliser les jeunes dans les quartiers, c'est qu'on s'intéresse à savoir un peu qui est qui, les différentes actions qui ont été mises en place et par qui elles étaient portées. En général, on a toujours un ancien, un parent, un Shibani, une Shibania, qui a contribué à œuvrer à l'histoire de son quartier. Et donc, du coup, on l'implique sur cette sensibilisation, cette mobilisation, et on lui donne une place importante dans le cadre du lancement du programme Devant le climat, et ce qui permet aussi aux jeunes qu'on forme de libérer la parole et aussi de nous raconter un peu comment eux, en tant qu'enfants, ils nous racontent l'histoire de leurs parents. Et c'est ce qu'on a remarqué dans chaque territoire et que chaque ville, chaque quartier, c'est hyper puissant, c'est fort, c'est très émouvant et très difficile en même temps. Et du coup, d'ailleurs, on a décidé de travailler sur un recueil de l'écologie vue par nos parents. Et on essaye de reprendre un peu toutes les interventions des différents parents qui interviennent et qui nous racontent un peu leur trajectoire, leur parcours, leur vision. Et c'est une façon aussi de leur rendre hommage et de faire revivre ces mémoires-là. Et nous, notre combat aujourd'hui, c'est de leur rendre cette dignité qui leur a été souvent volée. Et nous, notre victoire, elle sera quand on aura vraiment pris notre place à part entière, parce que là, on est vraiment dans le lancement de ce qu'on est en train de porter. Et on se dit que d'ici ces prochaines années, on aura gagné cette victoire de remettre la dignité de nos parents dans ces passages. Elle passe aussi par le travail de mémoire qu'on aura restitué.
Merci, Philippe, du Patrick.
Moi, enfin, donner mon avis juste sur la mémoire, parce que, vous voyez, les jardins ouvriers, ça fait partie de cette mémoire et en même temps de soucis qu'avait, et pour encore, il y en a encore, il faut les préserver, à mon avis, de cette volonté, de ceux qui travaillaient en général en usine, de continuer à avoir ce lien avec la nature et d'avoir des produits, puisqu'on parlait de consommation, les plus sains possibles. Alors, juste sur l'ancrage et le lien avec les territoires, on m'a vu. Moi, j'ai dit que, enfin, je vous ai dit que ma conviction, c'est qu'il fallait des théories, des slogans macro, mais si on ne les ancrait pas au plus plat des citoyens, ça ne marcherait pas. Parce que ça reste par expérience, par transmission de l'expérience, et belles paroles qui ne descendent jamais. Au concret, parfois même, qui se... Et donc, oui, il y a besoin... Alors, le territoire, c'est le département, c'est la communauté d'agglo, c'est la ville, c'est le quartier. C'est le quartier. Et il y a des convergences... Il y a des convergences à avoir. Par exemple, je reviens... Je vous soulève ma chapelle tarblec. On a travaillé avec la ville de Rouen, parce que pour sauver cette cuisine... il fallait que le maire exerce son droit de préemption sur le terrain. Donc, il y a un intérêt, il y a des convergences à avoir. Mais moi, je pense que, par exemple, sur la question de l'eau, il faut vraiment travailler avec les municipalités, les communautés d'allô, les métropoles, etc. etc. Sur le transport du quotidien, là aussi. Donc, la place des territoires, elle est essentielle. Elle est essentielle. Ceci dit, il y a des choses qui ne dépendent pas que du territoire. J'entends suffisamment de maires râler en disant que l'État leur renvoie de plus en plus des responsabilités qui, à la base, sont des responsabilités nationales. Donc, il faut faire attention à ce que... Et c'est quand même la spécialité du gouvernement actuel et d'un certain nombre de ministres de dire, et ça, vous vous débrouillez avec vos collectivités territoriales, de plus en plus. Donc, il faut trouver cet équilibre pour ne pas dédouaner. Enfin, sur... On s'entend, on pose la question à Martinez sur la radicalité.
Ouais,
il faut se mettre d'accord sur la radicalité. Moi, j'ai fait la une du point avec ma gueule des mauvais jours, comme tu veux paralyser la France. Vous voyez, en tout cas, je ne conçois pas, sinon je vous décevrais, je ne conçois pas d'action sans mobilisation. Et donc, oui, par exemple, la CGT était à Sainte-Soline avec les ONG, etc. Quand je vous dis Chapelle d'Arbeil, il a fallu passer une journée à Bercy, au ministère, pour bloquer. Mais ce qui nous... Enfin, je finis là-dessus. Ce qui est marrant, c'est pour ça qu'il faut se parler, c'est qu'entre ONG et syndicats, on a les mêmes formes d'action. Hein. On n'a peut-être pas les mêmes drapeaux ou la même couleur de drapeau, mais sur les constructions de mobilisation, on a les mêmes formes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut se parler, parce qu'il y a les éco-terroristes, il y aurait les syndicats preneurs d'otages. Ça, c'est Darmanin qui nous parle comme ça. Mais dans dans la mobilisation, dans les façons de se mobiliser, on est quand même très proches. D'ailleurs, moi, je me suis marré souvent que bon, à CGT, on est quand même un peu plus vieux qu'à Trilpis. Pour le reconnaître, c'était un peu le moyen d'âge. Et les vieux de la CGT, enfin, ne vous répétez pas que j'ai dit ça. Hein. Les trop anciens de la CGT découvraient avec plaisir que les jeunes de Greenpeace faisaient comme eux en termes de construction et de préparation d'action. Là aussi, on a des convergences de générations qui sont vachement sympas à vivre. Comme moi, ça m'a fait plaisir. Et ça crée des liens. Ça aussi, ça crée des liens.
Merci Philippe. Patrick Huyagat sur la radicalité. Je pense qu'on pourrait terminer là-dessus.
Oui, moi, je veux bien réagir à la fois en écho à ce que disait Jean-François Caron et puis à la question sur le micro-macro. Jean-François utilisait un terme fort qui est celui de capacitation, qui est aussi d'ailleurs celui qu'utilisait Amartya Sen, qui a été un des acteurs majeurs pour proposer de nouvelles approches des indicateurs de richesse. Et la question de... Moi, je parle de puissance théatrice, et c'est la même chose. Elle fait le lien, à mon avis, entre les enjeux micro et macro. Parce que l'une des grandes questions, c'est comment on sort des rapports de domination, d'exploitation, d'aliénation, etc. Mais fondamentalement, il y a un mot dur qui est la domination. Quand ça peut être la domination sur le rapport au vivant, et ça va s'appeler le conductivisme, ça peut être la domination qui construit des inégalités sociales, et là, le cœur du capitalisme, et ça peut être la domination de genre, et là, on va être sur les problèmes l'étalité du patriarcat, ça peut être évidemment la domination raciale, etc., etc. Dans le cas qu'on a dit avec Julie, on a repris ce terme de brutalisme pour qualifier le point commun à tout ce qui nous paraît être dans des logiques mortifères à combattre. Parce qu'il y a une brutalité dans le rapport au vivant, dans le rapport à l'égalité sociale, dans les rapports, comme le rapport de race, etc. Si on dit quelle est la forme qui est aussi bien à des échelles micro qu'à des échelles macro, qui va permettre, si ça carnatique ou brutalise, ben, c'est la capacitation. C'est la puissance créatrice. Parce que, et là, le double sens du verbe pouvoir renseigne bien sur ce coin, c'est pas du tout la même chose d'utiliser le terme de pouvoir au sens grammatical du terme comme un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules, qui n'a de sens qu'avec des compléments. Et à ce moment-là, on est dans le pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Il y a une cohérence entre les deux. Tandis que si on est dans le pouvoir sûr qu'on écrit en majuscule, le pouvoir substantif se justifie à lui-même, eh bien là, non seulement on génère de la domination, mais on génère aussi de la dépression. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai, évidemment, au niveau qu'évoquait Jean-François, et la fabrique des conditions le démontre de façon excellente au niveau des territoires. Mais c'est vrai aussi dans l'intime de nos vies, parce que qu'est-ce qui se joue, par exemple, dans la sortie des rapports de domination au niveau des violences sexuelles, c'est toute leur progression vers un art d'aimer. Donc là, il y a quelque chose qui est complètement bouleversant dans l'ordre de nos relations dans l'intime de nos vies. Mais c'est vrai aussi, à l'autre échelle, de quelles nouvelles géopolitiques avons-nous besoin pour sortir des situations absolument tragiques dans lesquelles on risque de s'enfoncer, c'est évidemment pas de raisonner en termes de puissance dominatrice et de savoir quel est le camp dominateur qui est capable de l'emporter. L'humanité en craindra. Par contre, il nous faut, c'est ce que disait Edgar Morin quand il parlait d'une géopolitique de l'humanité, moi je préfère le terme de géoécologie de l'humanité, pour identifier la question commune de la terre habitable comme étant une question centrale. Dans cette géoécologie de l'humanité, nous avons besoin de puissance créatrice. Et donc, de l'intime au planétaire, du micro au macro, sortir du pouvoir comme domination et générer de la puissance créatrice, c'est, me semble-t-il, une clé importante.
Si l'infinité...
La radicalité, c'est un très, très, très beau mot. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin de changements immédiats, totaux, globaux, sur lesquels la politique des petits pas n'est absolument pas une politique adaptée et même parfois une politique indécente. Je vais vous prendre deux exemples. J'ai eu, il y a quelques années, une conversation assez vive avec une ministre en charge des droits des femmes, qui avait déclaré, élément de langage, que si on passait en termes féminicides aux 150 victimes qu'on connaît chaque année à 10 victimes par an, alors elle aurait 60 boulots. Et madame, 10 victimes, vous choisissez lesquelles? Sur le sujet des féminicides, vous considérez que 10 victimes, alors vous aurez fait à peu près partiellement quand on travaille sur le sujet? Qu'une femme qui meurt, deux femmes qui meurent, 3 femmes qui meurent, 4 femmes qui meurent, 5 femmes qui meurent, 6 femmes qui meurent, je vais aller jusqu'à être une... 7 femmes qui meurent, 8 femmes qui meurent, 9 femmes qui meurent, 10 femmes qui meurent, c'est pas un sujet pour vous? Parce que quand vous étiez à 150 au départ, vous n'avez pas arrivé à zéro sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le sujet des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. On a absolument besoin de radicalité. On s'est dit, sur ces sujets-là, on va avancer, la pluie des petits pas, c'est bien, on progresse, les quotas au conseil d'administration, dans les comités exécutifs, etc. La réalité de ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, dans le monde entier, sur le rythme actuel, on va l'atteindre dans 250 ans. Sans radicalité sur ce sujet-là, peut-être pour progrès, mais le mot progrès est presque vulgaire à utiliser. Parce qu'on ne change pas. Il y a des sujets pour lesquels le changement passe absolument et nécessairement par la radicalité. Je prends un deuxième exemple. Vous avez sans doute entendu parler de la situation des écoles nancyennes. Les écoles nancyennes, aujourd'hui, on parle beaucoup, heureusement qu'on en parle, il faut que vous relayiez ça de manière très forte, on parle beaucoup des établissements de Seine-Saint-Denis, mais la situation des écoles nancyennes, véritablement, c'est une situation qui est scandaleuse. On a besoin de rénover 450 écoles à Marseille. Rénover des écoles, c'est rénover des écoles où parfois vous n'avez pas de fenêtres, vous avez des rats qui passent, les élèves, il fait extrêmement froid l'hiver, il fait extrêmement chaud l'été, c'est des conditions d'apprentissage qui sont des conditions d'apprentissage totalement intolérables pour des enfants et c'est des conditions d'enseignement qui sont des conditions d'enseignement totalement intolérables pour les enseignants. On a quand même une chance incroyable d'avoir dans les écoles marseillaises des enseignants qui ne font pas une demande quotidienne de leur droit de voterie qui vont quand même enseigner. Alors à Marseille, avant l'équipe municipale actuelle, rien n'avait été fait pour rénover les écoles. Donc on se dit, là, aujourd'hui, il y a un plan qui a été mis en place, et je salue ce plan qui est un plan de rénovation d'environ 50 écoles tous les ans. Vous voyez, 450 écoles, 50 écoles par an, il y a des écoles qu'on va rénover dans 10 ans. Ça veut dire que chaque année, vous allez avoir des gamins qui vont faire leur scolarité dans les écoles qu'on n'aura pas encore rénovées, parce qu'on aura mis un plan de rénovation, les révoltes sur 10 ans. C'est des centaines, des milliers de gamins qui vont étudier dans ce cas-là, avec l'image que la République leur renvoie de « je reviens sur la notion de respect, je ne te considère pas », parce que si je considère que tu peux étudier dans ces conditions-là, tu ne te considères pas. Et moi, je me demande comment on accepte d'être dans une société qui refait à neuf en 4 ans Notre-Dame de Paris, c'est bien, on en fait d'ici, qui refait à neuf en 4 ans Notre-Dame de Paris, parce qu'il faut en terre l'image pour la programmation des Jeux Olympiques, avoir une cathédrale qui refait une flèche à neuf d'un coq au sommet de la cathédrale, mais qui considère qu'on peut programmer sur 10 ans la rénovation d'école, dans laquelle il est totalement indigne de laisser des gamins aller apprendre à lire et ou à écrire. Et la mobilisation, ici, ça doit être une mobilisation radicale, parce qu'il faut faire tout de suite, et je pense qu'on est une société, une économie, et des territoires, on devrait avoir les moyens de rénover en 1 an 450 écoles, en s'y mettant tous, en pensant des modèles différents, des investissements économiques différents, en demandant à ceux qui ont annoncé donner 10 millions, 100 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris, de mettre les moyens sur ces chantiers-là. Parce que si on ne fait pas de preuve de radicalité sur ces sujets-là, alors c'est même pas pour qu'on ne reste pas dans le traitement de la question sociale et dans le traitement de la mission écologique. C'est qu'on laisse se conduire une politique sociale et une politique économique dans laquelle la déconsidération prime sur la considération qu'on doit à chacun. Donc, est-ce que demain, politiquement, il y a besoin de radicalité? Oui. Je considère que demain, politiquement, il y a besoin d'une gauche radicale extrêmement forte. Il y a parallèlement besoin aussi d'une gauche qui se définira comme non-radicale extrêmement forte, et que c'est par le mouvement et l'association de ces deux gauches-là qu'il y aura la possibilité de reprendre le pouvoir et de conduire une politique différente. Et pour revenir à une question qui a été posée tout à l'heure en disant « mais comment ça pourrait réagir au sommet ?» Si on voit ce mouvement-là d'une démocratie qui choisit un camp en faveur de politiques radicales sur la question sociale et la question écologique, on a déjà vu au moment, je n'ai pas connu cette époque, mais de ce que j'en ai lu, mon élection en 80, François Mitterrand, il y a des préfets qui ont jugé bon de barricader les préfectures. Ils ont eu peur, mais que demain ils aient peur. C'est pas ça qui empêchera la démocratie française de s'exprimer.